Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La fourmi dans la coquille, le podcast pour sortir du dédale. Face à l'entrisme de l'intelligence artificielle dans nos sociétés, que peut-on faire ? La fourmi dans la coquille, saison 1, épisode 8, contre le trou noir intermédiaire parasite de la culture, quelques propositions. Pour ce dernier épisode de la saison 1 de La fourmi dans la coquille, je vous propose de revenir sur cette définition de l'intelligence artificielle en tant que trou noir philosophique, et constatant les impacts importants que peut avoir l'intelligence artificielle sur nos sociétés, en termes sociaux, économiques, environnementaux et philosophiques, nous ferons le tour de quelques propositions pour s'en prémunir. L'IA générative ne fait ni l'art ni l'artiste et qu'elle ne crée rien, qu'elle ne réduit pas globalement la quantité de travail humain. Que fait-elle ? Comment et pourquoi s'impose-t-elle ? Au-delà de la tendance des réseaux sociaux et des médias en général à monter en épingle toutes sortes de tendances avant que quiconque ne sache réellement analyser et prédire leurs intérêts et leurs conséquences futures, qu'est-ce qui propulse l'IA ? Il y a une part évidente de discours marketing et de mode entretenu par les différents acteurs de l'IA qui tentent de faire le buzz par tous les moyens, que ce soit en publiant des lettres ouvertes alarmistes ou en diffusant des démos certes impressionnantes mais aussi bien choisies des résultats de leurs diverses expérimentations, ou encore en se reposant sur les discours très enthousiastes mais aussi très amateurs de nombreux influenceurs absolument complètement excités à l'idée de tester en avant première ou en bêta fermée les dernières innovations, toujours appelées à révolutionner des métiers que ces influenceurs ne connaissent pas. Mais pourquoi une telle débauche si au final l'IA générative et statistique, malgré ses nombreux défauts et les nombreuses objections à son usage, n'est même pas économiquement rentable ? Parce que non, l'IA n'est pas rentable, tous les développeurs de l'IA cherchent encore un modèle économique et d'ailleurs, très récemment, une semaine ou deux avant l'enregistrement de cet épisode de mars 2025, le patron de Microsoft, Satya Nadella, a lui-même admis qu'il ne voyait pas vraiment de modèle économique qui justifie les investissements démesurés dans les centres de calcul que Microsoft avait prévu de construire, et il se trouve donc que Microsoft a annoncé réduire la voilure et construire beaucoup moins de serveurs dédiés à l'IA qu'initialement prévu. Et donc, pourquoi cette IA, qui n'est même pas rentable, est poussée à ce point partout par la moindre fenêtre entrouverte dans nos vies ? En fait, en s'imposant partout, que ce soit comme filtre sur nos recherches ou comme simple agrégateur de contenu capable de régurgiter toutes sortes de médias à l'utilité toute relative, l'IA se place comme intermédiaire à la culture en général et au sens large. Elle se nourrit de notre contenu culturel collectif, largement accessible via Internet, et à ce titre, elle est une nouvelle émanation de l'économie de plateforme, dont la valeur sociale ajoutée est finalement plutôt faible. Il faut dire que les acteurs du numérique du 21e siècle ont bien compris l'importance de se placer comme intermédiaire entre les usagers et divers produits et services, avec le but premier de gagner en importance et en puissance. La monétisation pouvant n'arriver que dans un second temps, vu que la priorité est bien en premier lieu de mettre en place, sous couvert d'un nouveau « service » entre guillemets, un contrôle sur l'accès aux ressources et de se rendre incontournable. Les IA génératives et statistiques peuvent tout à fait être vues dans ce contexte comme un contrôle sur l'accès à la culture au sens large, avec lesquelles elles sont nourries et entraînées en accaparant purement et simplement une valeur sociale et économique commune, en s'appropriant notre culture et en ayant le pouvoir d'en contrôler l'accès. C'est assurément là que réside l'intérêt pour les acteurs privés qui les développent, le modèle économique pouvant être défini dans un second temps, une fois que ce contrôle, que ce verrouillage, que cette place d'intermédiaire est assurée. Le service, toujours entre guillemets, une fois les utilisateurs enchaînés, pourra alors être dégradé sans risque de perdre les utilisateurs qui n'auront plus véritablement d'autre choix, dans le but de dégager progressivement des nouvelles marges financières. Mais il faut dire aussi qu'au-delà du contrôle ayant pour objectif les gains financiers, il est tout à fait légitime de s'inquiéter du pouvoir sur la société ainsi obtenu grâce au contrôle sur l'accès à la culture, au savoir et à l'information, où l'entreprise qui développe l'IA est en mesure aussi bien de parfaitement censurer que de complètement altérer tout accès à des données par ailleurs publiques. Les intelligences artificielles statistiques sont ce qu'on pourrait appeler des sophages, de Sophia, le savoir, et du suffixe phage, celui qui mange. Ce sont des mangeuses de connaissances, privatisant la culture et le savoir. Mais est-ce que leur succès ne serait pas aussi un symptôme d'un mal plus profond, à la fois la conséquence et le catalyseur de la fainéantise naturelle des humains, tout animaux qu'ils sont? Nous l'avons vu tout au long de cette saison, les intelligences artificielles phagocytent notre culture et notre créativité, notre travail et notre intelligence passé, présent et futur, pour les déconstruire via des méthodes à la fois stupides et brutales, et en faire des micro-tâches décérébrées et délocalisées dans des pays pauvres, le tout sans la moindre attention pour la planète ou l'humanité elle-même. Mais faisons attention, parce que l'IA n'est peut-être elle-même qu'un exemple, un symptôme, ou la partie émergée d'un iceberg, d'un phénomène bien plus profond, c'est-à-dire d'une course à la stupidification de la société qui serait guidée par la quête du profit capitalistique, dirigée elle-même par quelques riches et puissants cyniques, et malheureusement suivie par trop de naïfs et de naïves. Parce que quand on est riche et puissant, comment mieux protéger ses propres intérêts qu'en s'assurant du contrôle de l'accès à la connaissance et à la culture, brique élémentaire et indispensable de toute forme de démocratie, et plus cyniquement en dirigeant la population sur une voie de stupidification massive. Les grandes IA statistiques, les grands modèles de langage et les autres IA génératives s'inscrivent parfaitement dans une telle stratégie. Elles sont une nouvelle brique qui s'insère parfaitement aux côtés des réseaux sociaux privés et autres algorithmes qui contrôlent le contenu de nos vies numériques. Gargantuesque, les intelligences artificielles statistiques n'existent que parce qu'elles ingurgitent nos données, notre savoir, notre culture dont elles dépendent pour leur apprentissage. En prétendant être des outils qui font gagner du temps ou en facilitant nos tâches les plus variées, elles se posent en fait en filtre, en rempart contre l'accès à cette connaissance et à cette culture. Elles ne régurgitent qu'un pseudo-consensus généralement biaisé et absolument sans intérêt philosophique. Elles le font via des méthodes brutales et stupides, ne nécessitant ni analyse ni aucune forme d'abstraction. Complètement fermées, elles ne permettent aucune compréhension de leur propre fonctionnement. Et comme on a pu l'analyser tout au long de cette saison du podcast, les IA sont des trous noirs philosophiques dans lesquels la connaissance, le savoir, la philosophie, l'intelligence tombent sans aucun retour possible. On est début 2025 et les politiques publiques, les dirigeants, les partis politiques s'expriment assez peu sur le sujet de l'intelligence artificielle, qui est pourtant bel et bien un phénomène dangereux et qui peut impacter des pans entiers de la société. Il n'y a pas besoin d'analyser les programmes des courants politiques au pouvoir en France qui vont plus ou moins du Parti Socialiste au Républicain en passant par les partis qu'on dit centristes et macronistes. On peut juger tous ces politiques sur leurs actes qui ont à peu près tous montré soit leur indifférence totale sur le sujet, soit au contraire leur soutien à un développement sans bornes et sans limites de l'intelligence artificielle ne faisant preuve d'aucun recul ou d'aucune volonté de prendre du recul. Si l'on s'intéresse à ce qui est dit dans les autres partis, ceux qui ne sont pas au pouvoir, par exemple l'extrême droite, de ce côté-là, c'est la catastrophe. On peut lire sur le site du Rassemblement National que, aux côtés du nucléaire aussi bien civil que militaire, l'intelligence artificielle est vue comme un domaine stratégique sur lequel il faut s'appuyer pour, je cite, « renouer avec une certaine excellence économique ». Parce que oui, l'excellence économique passe aussi par la fabrication de missiles nucléaires. Selon eux, c'est écrit noir sur blanc. D'autant plus que la France serait soi-disant experte dans la collecte des données. Autrement dit, c'est un domaine dans lequel il faut investir sans compter. Si on continue d'analyser un petit peu ce qui est dit sur le sujet sur le site du Rassemblement National, on trouve un communiqué de Jordan Bardella qui milite pour la suspension du Green Deal européen, c'est-à-dire le pacte vert de l'Europe dont le but est d'arriver à la neutralité carbone en 2050. Jordan Bardella milite donc contre ce pacte, donc contre la neutralité carbone en Europe, et une des raisons qu'il en donne, c'est justement parce que ce serait une entrave au développement de l'intelligence artificielle. Alors la bonne nouvelle, c'est que le Rassemblement National a tout à fait conscience de l'impact écologique de l'intelligence artificielle. La très mauvaise nouvelle, c'est qu'ils en ont rien à fiche, bien au contraire, ils veulent aller plus loin, plus vite, plus fort, et foutre en l'air la défense de l'environnement. Quoi qu'il arrive, il n'est jamais fait mention d'aucun quelconque effet délétère de l'intelligence artificielle, ni donc d'une quelconque mesure ou prudence à avoir sur le sujet. Le but du Rassemblement National et de l'extrême droite est bien d'y aller tête baissée en faisant sauter toute réglementation qui pourrait en ralentir le développement. Je suis aussi allé fouiner de l'autre côté de l'échiquier politique, à la gauche et la gauche radicale, où on constate que ce sont les partis les plus radicaux, comme le nouveau parti anticapitaliste, le NPA, qui s'intéresse bel et bien au sujet, en particulier pour eux sous le prisme de l'impact social de l'intelligence artificielle. De son côté, la France Insoumise est un des seuls partis à aborder le sujet dans son programme, et elle s'intéresse notamment au risque de l'usage de l'IA comme outil répressif et de contrôle des populations, mais aussi aux biais divers liés à la fois à l'entraînement et l'usage de l'IA, par exemple comme les biais culturels dont j'ai pu parler dans l'épisode précédent du podcast. La LFI s'intéresse aussi à l'impact de l'IA sur les auteurs et les droits d'auteur. Enfin, pour terminer ce petit tour d'horizon, étonnamment, je n'ai trouvé aucune trace des termes intelligence artificielle sur le site des écologistes de Europe Écologie Les Verts. Le sujet est tout simplement absent du parti écologiste aujourd'hui. Alors quoi qu'il en soit, même à gauche où les propos se montrent un peu plus critiques envers l'intelligence artificielle et en opposition à la course débridée à laquelle veulent se livrer les partis de droite et d'extrême droite, les prises de position sont assez rares sur le sujet, et les propositions encore plus, voire inexistantes. Je vous propose ici donc de réfléchir ensemble à quelques pistes qui, sans prétendre à des applications concrètes et directes, peuvent nous donner matière à réflexion en réponse aux nombreux impacts sociaux, économiques, environnementaux et philosophiques des intelligences artificielles. Une première étape pour tenter de remédier à ces nombreux problèmes posés par les IA serait peut-être de commencer par éclaircir ce que le terme IA recouvre et d'imposer par là plus de transparence de la part de ceux qui en font l'usage. Il faut savoir à quel type d'IA nous avons affaire et il faut pour cela qu'on ait accès systématiquement à plus de précision de la part des outils dits d'intelligence artificielle. Quand l'IA est symbolique, elle est finalement assez peu différente des outils informatiques habituels qu'on rencontre depuis les débuts de l'informatique et ne pose pas de problèmes différents. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème du tout, ça veut dire que ce sont les problèmes qui existent déjà dans le numérique, à savoir la consommation en matières premières, en énergie et en eau inhérente à l'usage de l'électronique et qui dépend surtout des puissances de calcul et des quantités de données stockées et transmises. Ce sont des données auxquelles nous, la société publique, devrions toujours avoir accès afin de pouvoir quantifier les impacts de nos usages, y compris et surtout dans le cas de l'informatique entre guillemets dans le nuage, dans le cloud, c'est-à-dire qu'on appelle à tort dématérialisé. Si par contre l'intelligence artificielle est statistique ou inclut un aspect statistique, alors dans ce cas elle repose sur des réseaux de neurones, et à ce moment-là, il faut parler d'apprentissage automatique ou d'apprentissage profond. Il devient primordial de quantifier l'impact de ces réseaux de neurones en particulier, aussi bien en termes environnementaux, comme pour tout programme et serveur informatique, qu'en termes socio-économiques et philosophiques. Encore une fois, le minimum de transparence nécessaire de la part de tout développeur d'IA statistique serait de communiquer aussi bien le volume de données d'apprentissage utilisées que le nombre de paramètres, le nombre de connexions dans le réseau des neurones. On pourrait ainsi classer les IA selon ces paramètres objectifs et en inférer un score dont la méthode de calcul pourrait évoluer pour prendre en compte de nouveaux aspects, un peu à la manière des scores nutritionnels utilisés pour l'alimentation par exemple. Considérant que les IA statistiques reposent sur des données d'apprentissage qui représentent un bien social, un bien commun, et considérant que cet accaparement de notre culture collective et que l'automatisation des tâches liées à son usage représente une manière de capter une valeur autant économique que sociale, tout profit financier réalisé au moyen de l'IA devrait être taxé. Tout usage de l'IA devrait donner lieu à une cotisation sociale pour dégager des recettes publiques qui pourraient être démocratiquement réaffectées, par exemple au financement de la culture ou aux assurances sociales telles que l'assurance chômage ou l'assurance vieillesse, directement impactées par la croissance de l'usage de l'intelligence artificielle. Une taxation serait aussi un moyen efficace de réguler le développement des IA, de reprendre le contrôle sur son rythme, répercuter les coûts réels des IA dans leur prix permettrait facilement d'en limiter les usages et d'en éviter un usage abusif et inutile. Le lieu et la manière de mettre en place une telle taxation ou des cotisations, de dégager de nouvelles recettes publiques, devrait donner lieu à un débat démocratique et international, mais tout à fait urgent. Faut-il taxer les concepteurs de l'IA, les entreprises qui les distribuent et les mettent à disposition, et ou faire cotiser celles et ceux qui les utilisent? De nombreuses méthodes sont possibles et complémentaires et peuvent aisément être associés au score social et environnemental qu'on a mentionné précédemment. Le seul ingrédient manquant ici serait une volonté politique ambitieuse. Si on extrapole cette idée d'un contrôle démocratique via une taxation ou une cotisation sociale, est-ce qu'on pourrait pas purement et simplement se demander si le développement des grandes IA statistiques devrait être un domaine nécessairement public ? Tout comme on considère que des domaines stratégiques comme la sécurité, les communications, les transports, etc. nécessitent à minima un contrôle public et démocratique fort, les grandes IA statistiques ne pourraient-elles pas être ajoutées à cette liste de domaines stratégiques ? Que l'on prête une quelconque oreille aux avertissements alarmistes sur l'émergence d'une intelligence artificielle générale qui poserait un problème existentiel à l'humanité, ou qu'on s'intéresse un peu plus pragmatiquement à l'impact social, économique et environnemental de ces IA, on peut que tomber d'accord sur le fait qu'elles représentent un danger potentiel pour l'humanité et qu'il serait légitime de pas vouloir les laisser aux mains d'acteurs privés ne rendant compte à personne sauf leurs actionnaires. En tout état de cause, les données d'apprentissage des intelligences artificielles statistiques représentent un nœud primordial dont l'accès et l'usage devraient être sévèrement régulés en tant que bien commun. Comment se fait-il que de grandes multinationales privées puissent en toute impunité se saisir de tout contenu disponible sur Internet sans même chercher à en informer les auteurs, faisant fi de toute licence et tout accord d'utilisation ? Évidemment, les mesures qu'on peut imaginer ici vont se heurter à la fois aux frontières et aux puissants et aux riches, au détriment de la société et de la démocratie. Ça peut paraître illusoire de vouloir stopper l'IA ou même la ralentir, alors même qu'elle ne répond à aucun besoin qu'on aurait pu avoir avant les années 2020. Si le fait de freiner les acteurs du développement des plus grandes IA statistiques est stupide, nécessite une prise de conscience collective et une volonté politique forte, il faut pas non plus croire que c'est totalement utopique d'y arriver. On a eu des régulations européennes, certes timides mais réelles, qui ont été mises en place dans le domaine du numérique. Je pense par exemple au Règlement Général sur la Protection des Données, le RGPD. Il y a eu aussi des victoires d'État face à des réseaux sociaux. Je pense à la manière dont le Brésil, par exemple, est sorti victorieux de son bras de fer avec X, anciennement Twitter, en 2024. Au-delà de ça, rien n'empêche non plus, à l'échelle individuelle aussi bien que celle de l'entreprise, de refuser d'utiliser une intelligence artificielle pour rédiger un email ou un compte rendu. A-t-on vraiment besoin de générer des dizaines d'images via une IA à chaque fois qu'on cherche une référence graphique, alors que des banques d'images alimentées depuis plusieurs décennies, et Internet en général, n'attendent qu'une petite recherche de notre part ? A-t-on réellement besoin d'une IA énorme pour pour transcrire le contenu d'une réunion ou d'une IA entraînée avec l'intégralité d'Internet pour faire la synthèse de cette réunion, pour vérifier l'orthographe d'un mot ou la justesse d'une traduction. Est-ce que ces IA ne sont réellement qu'un jouet anodin ? Les travailleurs, les syndicats devraient se saisir du sujet avant qu'il soit trop tard et refuser l'intelligence artificielle statistique, tout comme les ludites ont refusé les machines qui faisaient plus vite et moins bien au niveau du 19e siècle. Petite parenthèse, le ludisme dont je parle ici est le nom donné à un violent conflit social en 1811-1812 qui opposait des artisans, les tondeurs et les tricoteurs, aux employeurs et manufacturiers qui voulaient employer des machines, notamment des métiers à tisser, permettant de faire plus vite et moins bien. Ces ludites se sont attaqués à ces machines avant de faire face à une répression violente, mais le ludisme a bien nourri les autres mouvements ouvriers qui ont suivi au 19e siècle. Je pense que cette démarche est tout à fait d'actualité face à l'entrisme de certains outils numériques dans nos vies et surtout nos travaux. Pourquoi ne pas introduire un principe de précaution dans le domaine numérique pour en freiner les évolutions trop rapides et prendre le temps du recul et des études d'impact avant de se lancer à corps perdu dans des développements délétères ? Qu'attend-on pour prendre conscience que le jeu n'en vaut pas la chandelle, que l'immense majorité des usages des intelligences artificielles statistiques est absolument injustifiable au vu des conséquences sociales, économiques, écologiques et philosophiques ? À quel besoin impérieux, je vous le demande, répond l'IA qui justifierait ces conséquences ? Soyons fiers de ne pas y toucher. Affichons fièrement le fait de créer et raisonner sans fainéantise et avec intelligence réelle. Voilà qui conclut la première saison de La fourmi dans la coquille, l'IA statistique, un trou noir philosophique. Ce n'est pour autant pas du tout la fin de ce podcast qui continuera d'explorer les savoirs, les sciences et techniques qui soutiennent la créativité, les métiers créatifs et l'art en général. De nouveaux épisodes et de nouvelles saisons sont d'ores et déjà en écriture sur d'autres sujets que l'IA. Je peux déjà vous dire que la saison 2 parlera très probablement de couleurs. Je vous invite à vous inscrire à la newsletter disponible sur le site internet lafourmi.media pour être sûr de ne pas rater ces futurs nouveaux épisodes. Il n'est jamais trop tard non plus pour partager les épisodes, les liker, mettre des étoiles et des petits cœurs sur votre plateforme d'écoute pour aider les algorithmes de recommandation à reconnaître qu'il peut intéresser quelques personnes et aider à augmenter lentement mais sûrement le nombre d'éditeurs du podcast. N'hésitez pas aussi à continuer à m'envoyer vos avis et vos suggestions, vos réflexions et vos questions sur les réseaux sociaux ou bien à l'adresse email contact@lafourmi.media. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci pour votre attention, merci pour votre enthousiasme malgré des sujets pas toujours très joyeux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle saison de La fourmi dans la coquille. C'était La fourmi dans la coquille, le podcast qui cherche la sortie, par Nicolas Dufresne. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce podcast, et en particulier Anna Halsey. Tout au long de ce podcast, vous avez pu entendre des musiques de Aluminum Forest, Mountain Sounds et Christian Taus sous licence Creative Commons. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et sur notre serveur Discord disponible sur lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don ou trouver des options pour un soutien régulier.